Gauze, un camarade romancier qui tutoie la francophonie.
En sol majeur, au Salon international du livre d'Abidjan.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Franchement, faire le voyage Paris-Abidjan pour rencontrer Gauze, c'est cadeau. Le beau prétexte de ce week-end en sol majeur en Côte d'Ivoire, c'est la 11e édition du Salon international du livre d'Abidjan qui s'y déroule jusqu'à ce soir. Hier, grâce à l'Institut français, nous recevions Yacouba Konaté, vous savez, ce professeur de philosophie et ce directeur général du MASA. Et aujourd'hui, on se prépare au grand rire avec un auteur qui ne mâche pas ses mots, son enjaillement, mais aussi son histoire et sa perception du grand capital. C'est Gauze, Gauze l'Ecchymos qui fait du bien. Depuis ses années d'étudiant sans papier en France, de l'eau a coulé sous tous les ponts, celui d'Avignon, comme celui d'Oufouet-Boigny. Gauze enjambe, envisage et observe, photographe, documentariste, directeur d'un journal satirique. Après son premier roman « Debout payé », il nous revient, son sac de la grande histoire sur l'épaule, avec « Camarade papa », où l'on voit qu'il connaît bien son histoire coloniale, avec peut-être un double regard synonyme de cette fameuse double culture dont on parle souvent en sol majeur, loufoque, déjanté, révolutionnaire. Est-ce que Gauze pourrait être le gilet jaune de l'écriture? C'est une question qui peut faire sourire comme une formule, mais ça peut prêter à réflexion aussi.
Oui, gilet jaune dans le sens où je conteste le système, en fait. Je conteste ces évidences bourgeoises de la grande littérature française depuis des années. Je conteste l'évidence entendue de la langue à travers la francophonie. Oui, je suis un gilet jaune dans le sens où j'ai envie de brûler le Fouquet's de la littérature.
Ah, c'est donc vous. Bon, alors on va demander aux auditeurs aujourd'hui de faire un effort pour tendre l'oreille pendant ces 48 minutes en sol majeur, parce que vous entendez derrière nous ce bruit de fond incroyable. On est effectivement installé dans le stand de l'Institut français au Palais de la Culture d'Abidjan. Et en même temps, on vient d'accueillir un auditeur fidèle dans sol majeur, c'est un certain Siaka Diallo qui vit à Abidjan. On verra si on lui tend le micro tout à l'heure pour une question à Gauze. Gauze, j'ai bien entendu le mot bourgeois dans votre bouche. Est-ce que ça veut dire qu'on se tutoie alors pendant cet entretien?
De toute façon, je tutoie tout le monde parce que je suis responsable de ce que je fais. Mais après, pour toi...
Idem pour moi.
C'est la base syndicale.
Oui, moi je te dis vous, hein, je pense, parce que la base syndicale, c'est de penser à l'auditeur. En revanche, toutes nos excuses par avance pour les questions petites bourgeoises qui vont forcément sortir de notre chapeau en sol majeur.
Drömde ni om att vara en rosa?
Enfant, est-ce que vous rêviez de faire la révolution?
Enfant, en fait, je rêvais pas de révolution parce que mon enfance même était une espèce d'enfance révolutionnaire.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que j'ai grandi loin des parents, chez un tuteur-instituteur qui nous laissait une espèce de liberté totale, en fait, entre l'école et la maison. On pouvait aller où on voulait. Par exemple, j'ai de souvenirs à la frontière du Ghana, à Niablé, à la frontière du Ghana, où à la récré, on partait au Ghana. Quoi. On avait l'impression d'être des explorateurs de temps nouveau. Ou bien en troisième, quand je partais au Libéria, à la frontière là-bas, ou encore au village, chez ma grand-mère. C'était la révolution permanente.
Mais j'ai l'impression quand même que même de loin, le mot « révolution » faisait partie du vocabulaire familial. Vous êtes né à Abidjan en 71, Gauze, d'un père enseignant, ex-député socialiste et d'une mère infirmière, communiste et engagée.
Engagée plutôt.
Ah.
Pas encartée, mais engagée. Très engagée d'ailleurs. C'est l'une des rares personnes en Côte d'Ivoire et en Afrique qui, en avril 94, lors du début des massacres à Kigali, s'est dit: Ah non, mais moi, je laisse pas faire. Hein.
Au Rwanda.
Au Rwanda.
Au moment du génocide.
Voilà. On parle des 25 ans de cet événement horrible. Hein. Et donc, ma mère, par exemple, est partie au Rwanda dès avril-mai 94 pour aider en tant qu'infirmière. Elle est revenue en novembre.
Clandestinement, elle est partie, j'imagine.
Carrément clandestinement.
Donc avec une prise de risque énorme.
Énorme, en nous faisant confiance pour nous gérer à Abidjan. Elle est partie envers et contre tous, envers toute logique, au nom de ses convictions humanistes.
Donc vous êtes né dans un climat comme ça de conviction et d'engagement.
De conviction profonde et d'engagement, on va dire, ferme.
Alors évidemment, en lisant la rhétorique révolutionnaire de votre jeune héros dans Camarade Papa, on va en parler... On est dans une fiction, ça c'est sûr, avec vous, Gauze, mais on se demande s'il n'y a pas un peu de votre ADN quand même dans ce roman.
Ah ben forcément, en fait l'idée dans ce roman, l'idée de la rhétorique révolutionnaire, elle est venue avant même l'idée du... Après l'idée du roman, après l'idée de cette grande balade coloniale là, je me suis dit que la colonisation n'est pas un fait isolé dans l'histoire comme ça, et que l'histoire se répétait en fait. Parce que pour moi la colonisation ce n'est rien de raciste, c'est juste la décision d'un groupe bourgeois d'exploiter un autre groupe. Et qu'a fait le monde 100 ans après cette colonisation? Elle a laissé triompher le capitalisme en fait. Donc j'avais envie de répéter ce truc là à travers ce gamin révolutionnaire, rappeler aux gens le combat de départ, laisser l'écran de fumée les rappeler le combat de départ, celui de l'égalité sociale et de la justice sociale.
Alors, il faut dire pour les auditeurs qui n'ont pas encore lu le roman, Camarade Papa, c'est un roman où il y a deux voix qui tiennent le crachoir, à deux époques différentes. On est d'un côté au 19e siècle avec un certain Dabilly, c'est un jeune creusois qui part comme ça tenter l'aventure coloniale. Et son récit...
Un migrant dès l'époque.
Un migrant, un des premiers, ouais. La première génération. Et son récit alterne de l'autre avec celui d'un enfant d'origine africaine, né de parents communistes, un siècle plus tard à Amsterdam, et qui débarque un jour en Côte d'Ivoire. Donc le fait de vouloir mettre ces deux récits en parallèle, c'est ça, c'est dire que l'histoire ne fait que balbutier.
Elle ne fait que balbutier et qu'on ne peut pas la penser en isolant les époques. En fait, il faut toujours l'intégrer, la contextualiser dans ce que nous on est aujourd'hui.
Avant de découvrir cette fameuse rhétorique marxiste-léniniste qui prête à sourire quand même, hein, de votre jeune héros, un détour par la pensée coloniale du siècle des Lumières. J'aimerais que vous nous disiez en deux mots, qui est ce Dabilly, ce personnage dont on vient de parler deux secondes là, et puis l'enjeu de sa rencontre à table avec Bricard, Péan, De Jean, Fourcade et Dreyfus.
Alors déjà, il faut que je précise que Bricard, De Jean, Fourcade, Dreyfus sont des personnages qui ne sont pas imaginés, qui ont vraiment existé et vécu à Grand Bassam à l'époque de Trèche-la-Plaine. Marcel Trèche-la-Plaine, c'est le premier gouverneur entre guillemets, de la Côte d'Ivoire, en réalité bien avant Binger, parce qu'il était le représentant de la grande société commerciale qui exploitait Grand Bassam et assignée à l'époque. Histoire de rappeler que en fait ça commençait par les sociétés commerciales.
Oui.
Ça, le discours politique, le discours dominateur et tout ça, il est venu après. Ce qui a brouillé le message, c'est Jules Ferry et sa grande rhétorique d'apporter la civilisation. Mais il savait qu'en faisant ça, il travaillait déjà pour Bouygues, Eiffage, CFAO, etc. Donc Maxime Dabilly, qui vient du centre de la France, c'est un jeune homme pauvre en fait. En réalité, il n'est ni français, ni creusois. C'est juste un prolétaire du lumpen prolétariat. Donc du coup, il n'a plus de couleur, il a une situation sociale. Il vient de la campagne. Papa et maman sont des paysans. Ils sont morts. Et souvent, quand on perd quelqu'un, ce qu'on fait, c'est qu'on bouge. Et il tombe à Châtellerault, à la manufacture des armes de Châtellerault, où naît déjà cette conscience prolétaire dans l'exploitation industrielle du 19e siècle. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Les Alsaciens là-bas, ce sont des étrangers. Donc il est dans cette masse d'étrangers-là, en réalité.
Ah, oui, faut dire que c'est la fête du livre, mais c'est aussi la fête du corps. Hein.
Est
à Abidjan, en Gauze.
Ils aiment taper le tam-tam, les gens ici. C'est bon, on fait ça toute l'année, on tape des tam-tams. On veut que les enfants ils lisent, ils vont pas le faire dans les tam-tams.
Vous trouvez que l'Afrique danse trop?
Non. Là, je dis qu'au Salon du Livre, c'est bon, il faut qu'on arrête un peu dans la journée de danser, quoi. Et que les enfants lisent, se posent leurs idées, quoi. Ils font ça toute la journée, toute l'année, c'est pas grave. En trois jours, ça va pas les déranger.
Alors.
Bon, enfin bref, je reviens à Maxime.
À notre tablé là.
À Maxime Dabik, donc qui vient à Assigny et rencontre des gens qui sont déjà sur le terrain, qui se sont fait déjà des convictions ou bien une trajectoire personnelle dans ce grand bassam de cette époque-là. Et on voit les différences en fait. Au fond, il n'y a pas une idée unique de la colonisation. Chacun est porteur de son idée personnelle, de son destin personnel. Et ils sont réunis autour de cette table-là. Ce sont des hommes exclusivement et qui mangent. Et bon, quand on ouvre le ventre, on ouvre aussi les vannes des idées. Le plan de table est invariable. Bricard et Péan sur une longueur, Desjean et Fourcade en face, Dreyfus et moi à chaque bout. Fourcade m'explique que les premiers sont négrophiles, la pire espèce d'homme blanc des colonies. Péan raconte que ses voisins en face sont négrophobes, la pire espèce de blanc des colonies. Les négrophobes utilisent nègre pour les hommes, négresse pour les femmes, sauvage pour les groupes. Ils prononcent nègre, menton relevé, air supérieur, avec insistance sur l'accent grave qui soulève un coin de lèvres. Négresse siffle son S final en dessinant sur le visage un rictus de concupiscence. Sauvage arrondit les yeux et fronce le nez pour en convoquer l'image. Les négrophiles possèdent une panoplie de groupes nominaux chargés d'épithètes. Ils disent tirailleurs sénégalais, porteurs mandé-djoula, robuste croumène, jolie apollonienne, belle fanti, fine malinquée, superbe mulâtresse, horrible acaplesse. Ils connaissent les races et n'hésitent pas à en faire des généralités. Lorsqu'on sollicite mon propos, je mélange les références. In medio stat virtus.
Magnifique petite leçon de sémantique avec cet extrait de Camarade Papa ici dans le brouhaha de l'Institut français installé au Palais de la Culture d'Abidjan dans le cadre du SILA. Avec vous, Gauze, pour en sol majeur. Alors, on pourrait parler de cette langue des heures. Il faut que les auditeurs lisent, justement, on est là pour ça, pour le rappeler. Grande jubilation quand même pour vous aussi à vous glisser dans la peau d'un blanc. Mais est-ce que c'est véritablement une fiction pour vous que de vous glisser dans la peau d'un blanc ?
La question est pertinente parce que justement, il y a la réponse dans la question en même temps. Parce que pour moi, finalement, au début, ça m'a posé problème de me dire « Ah, mais je vais parler dans la peau d'un blanc ?» Donc à la troisième personne, je vais faire la troisième personne. Uh-huh. Il. Donc je prendrai la position du dieu qui fabrique le personnage comme ça. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que le personnage en question et moi avions la même culture, avions la même histoire. Désormais, les ancêtres de Zola et moi partageons les mêmes ancêtres. Mes ancêtres sont aussi gaulois que les ancêtres de Zola sont bêtés. Parce que le jour où le premier blanc a mis son pied à Assigny, il a déjà transformé sa propre société à lui, tout en transformant la nôtre. Et réciproquement, le jour où moi je mets les pieds à Paris, j'ai déjà bousculé toute la France, tout en transformant aussi la mienne. Donc voilà, on parle la même langue, on a presque la même religion. Bon, avant j'étais catholique, mais maintenant je ne le suis plus.
Vous êtes quoi maintenant ?
Oh, maintenant je suis Gauze. Je suis Gauze, bété de religion.
C'est quoi comme religion ça ?
Ben, animiste quoi, animiste comme Jean-Marie Adjafi. Donc voilà, je peux me mettre à la place de ce blanc. Lui ne peut pas se mettre à ma place, mais moi oui.
Donc vous pouviez assumer le jeu de la narration.
Je pouvais
de la narration.
Facilement assumer le jeu.
Alors, cette idéologie raciste, racialiste du siècle des Lumières, avec son écho deux siècles plus tard sur votre petit héros, c'est un enfant d'origine africaine qui vit à Amsterdam, je le rappelle. Alors lui, il est marron clair.
Voilà.
Bon, l'histoire de la couleur n'est pas importante, mais on va quand même s'en débarrasser tout de suite. Il est marron clair, et le marron devant être exemplaire aux yeux de son père, bon, il y a matière à réflexion. Et lorsqu'il débarque en Côte d'Ivoire, eh ben, il se fait traiter de petit blanc. Deux siècles après la grande broyeuse colonisatrice, Gauze, vous diriez que le degré de colonisation ou d'aliénation en est où ?
Alors moi, j'ai une pensée assez distanciée sur ce que les gens considèrent comme l'aliénation. Parce qu'on a l'impression, hein, là, vu comme ça avec les grands yeux de l'histoire, avec du recul, on sait tout de suite, on devine tout de suite où sont les grands gagnants Et où sont les grands perdants? On a l'impression que c'est ça, mais pas tant que ça.
On s'est trompé?
Ben, je pense qu'on se trompe en réalité. Regardez aujourd'hui, on parle français, une langue latine.
On, vous dites...
Tout le monde. La France parle français. Mm-hmm. La France boit du vin. La France mange du pain. La France parle latin, le latin des Romains. Ils ont été colonisés et matés aussi par la colonie romaine. Mm-hmm. Vercingétorix et sa bande étaient considérés comme des sauvages à qui on apportait la civilisation. Bizarrement, les mêmes discours que Jules Ferry. Et aujourd'hui, quelques siècles plus tard, le français, c'est de l'italien mal gaulé. En réalité.
Ouais.
Donc voilà, et c'est quoi le sens de l'histoire aujourd'hui? La France se targue de son vin venu avec les Romains, de son pain venu avec les Romains. Voilà. Donc, où est le vainqueur de l'histoire? Et c'est pareil ici. Nous, on a déjà pris le français là qui nous ont envoyé. Définitivement, je ne vais plus jamais redevenir le bété qu'était mon grand-père. Mais je ne serai jamais le français qu'est le fils de Nicolas Sarkozy ou bien de... Enfin, le fils spirituel. Et donc, nous sommes déjà un autre étang qui fait le constat des deux histoires là, dont il y a eu la conflagration sur la barre d'Assigny de Grand Bassam.
On est des mutants.
On est des mutants absolus et totaux.
Alors en fait, comme vous le dites, la couleur, c'est pas vraiment le sujet de votre roman « Camarade Papa ». Le sujet, c'est un peu la lutte des classes, dès les toutes petites classes. « Camarade Papa », extrait.
Les grands soirs, camarade papa. Tout est instrument de lutte contre le grand capital aveugle et apatride. La maison devient camp révolutionnaire anticapitaliste, le crack. Le frigidaire est la réserve vive. Les tiroirs de pâtes et de conserve, la réserve de prudence. Le balai, mitrailleuse automatique. L'aspirateur, char d'assaut série T, cuvée Joukov. La chambrette, QG stratégique et centre de commandement. Les toilettes, camp de répli ou en cas de bêtise, camp de redressement. Le menu est prévu par plan quinquennaux de 4 jours. Je suis ministre selon ce qu'il y a à faire. Ministre des affaires aquatiques et du bain, ministre des études et de l'équipement scolaire, ministre des affaires poétiques et du ravissement musical, ministre de la guerre aux blattes et du papier à hygiène, ministre du contrôle de la cuisson des pâtes et du riz, ministre des ondes courtes et moyennes sur la radio. J'ai occupé tous les postes et titres nécessaires au développement du crack. Tous, sauf ministre de la propagande, de la perspective historique et de la dialectique populaire. Réservé à camarade papa.
J'ai comme le grand soir.
Gauze, vous êtes une vraie fontaine. Hein. Alors, on est d'accord, oui.
Je suis adapté au climat, en réalité.
Oui, oui.
Il fait 100% d'humidité, donc oui. Il faut que je garde l'eau toujours près de mon corps.
Vous êtes fluide.
Voilà, exactement.
Je dirais. On est d'accord, et votre roman déploie bien cette idée, le réel problème entre les blancs et les noirs, c'est pas tant que ça la couleur, mais c'est plutôt l'invention de l'avoir. C'est-à-dire l'invention du capitalisme, vous nous le disiez un peu tout à l'heure. Expliquez-nous mieux ça.
Pour moi, les pensées racialistes, elles sont venues après. Après le mouvement, en fait, de l'exploitation. Par exemple, les vieux textes des Hollandais, des marchands normands, là, étaient remplis d'humanisme. Il n'y avait pas Rousseau encore. Mais ils voyaient les gens tels qu'ils étaient. Ils se découvraient les uns les autres. Ouais, parce que le temps du voyage d'avant n'est pas le même que celui de maintenant. Les gens se posaient. Ils venaient pas faire 2-3 jours. Ils restaient là des mois, ils avaient le temps de connaître les gens.
Oui, mais le monde était fermé. On ne savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté de la montagne. Et ça construit des perceptions du monde, justement.
Mais le racisme vient longtemps après. Même chez les Malinkés, les Keïta se sont supérieurs aux Diabaté. Donc ça n'a rien à voir avec la couleur, en réalité. L'invention du racisme, pour moi, il vient largement après l'exploitation, le capital. Et après, tout le monde utilise le discours aujourd'hui, de part et d'autre, des barrières colorimétriques. À la fois les vainqueurs, entre guillemets, que les écrasés, entre guillemets. Et on oublie l'essentiel, celui de la justice sociale, de rappeler à la planète là, qu'elle n'a jamais été autant riche.
On est nombreux à vous suivre sur cette dénonciation du capitalisme, évidemment, mais en même temps, Il y a une autre forme d'aliénation dans le marxisme-léninisme de votre camarade papa, par exemple. Prenez la dictature de l'égalité, Gauze. C'est presque un oxymore, c'est très discutable en tout cas.
Totalement, mais voilà, en fait, ce n'est pas deux dogmes qui s'opposent. En réalité, c'est deux façons de voir le monde. Et moi, je ne tire les marrons d'aucun feu.
Du coup, vous avez un peu une tête à porter le béret. Béret révolutionnaire. Hein.
Absolument.
Pas celui de la baguette. Hein. Mais oui, il y a deux bérets. Hein.
Ouais, le béret basque.
Voilà. Pas aussi, oui. Car l'homme du réquisitoire contre les grandes puissances, vous l'avez toujours en tête. Et d'ailleurs, au cours du Forum social mondial qui se déroulait à Bamako en 2006, vous avez filmé des jeunes Africains qui faisaient partie du camp international des jeunes Thomas Sankara. Et on les entend reprendre le discours prononcé par Thomas Sankara à l'ONU à New York en 1984. Et nous, on a tenté une sorte de greffe en sol majeur entre Sankara et ces jeunes.
Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire.
Ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal.
Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans les réserves.
Afin qu'ils n'espèrent à aucun droit et que leur culture ne puisse s'enrichir en convolant en noces heureuses.
Au contact de d'autres cultures, y compris celle de l'envahisseur.
Je m'exclame au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste.
Conjoncturellement désaxé et réduit à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis.
Je parle au nom des femmes du monde entier
qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles.
Je parle au nom des mères de nos pays démunis
qui voient mourir leurs enfants de paludisme et de diarrhée.
Il y aura qu'il existe pour les sauver des moyens simples que la science des multinationales ne leur offre pas.
Préférant investir dans les laboratoires de cosmétiques et dans la chirurgie esthétique pour les caprices de quelques femmes.
Ou d'hommes dont la coquetterie est menacée par les excès de calories de leurs repas trop riches.
Et d'une régularité à vous donner, non, plutôt à nous donner, à nous autres du Sahel, le vertige.
Petit moment en sol majeur, toujours ici à Abidjan, dans le cadre du SILA avec l'Institut français pour RFI, entre donc le Sankara de 84 à l'ONU et ces jeunes Africains qui reprennent son discours dans votre documentaire intitulé « Quand Sankara, trois petits points, Gauze ». Quelle est la démonstration là?
Saint Thomas avait il y a 50 ans d'avance, voire plus, le discours de l'égalité sociale. Hommes et femmes, l'écologie, l'émancipation monétaire, etc., etc. Thomas Sankara a tout théorisé, il a tout discouru avant tout le monde.
Donc la feuille de route tient toujours la route.
C'est comme s'il était encore là et c'est ça qui est génial. C'est ça les vrais hommes politiques, ceux qui dépassent la politique et qui arrivent à projeter une vision de la société et du futur. D'ailleurs, il disait inventer l'avenir. Je pense qu'il y a quelque chose de très africain dans le marxisme-léninisme qui aurait pu marcher s'il y avait beaucoup plus de sincérité, plus d'idéaux. En fait, il faut rêver fort pour que ça se réalise un peu.
Vous constatez quand même, comme nous tous, que l'Afrique aujourd'hui est beaucoup plus dans l'avoir que dans l'être.
Et c'est dommage. Il y a des gens qui ont 1 milliard sur leur compte en banque. Quel sens ça? Quel sens ça? Comme on dit à Trècheville, quelle que soit la taille de tes fesses, tu ne peux jamais conduire 2 Mercedes à la fois.
J'adore. Pourquoi est-ce que vous vous sentez proche, vous, des pays de l'Est, et en particulier de la Croatie? Je ne sais pas si vous vous êtes sensible à la blondeur de la nouvelle présidente Kitarović.
Non, mais ça, c'est le football. Ça, c'est... Déjà, c'est frais d'avoir une femme comme présidente dans ces pays hyper virils-là. Mais en fait, en réalité, quand je suis parti la première fois en Croatie, en fait, ils ont quelque chose de très africain, lié à la terre encore, lié au regard, lié au toucher, lié à l'oralité, aux histoires. Et très vite, ça marche, en fait. Et puis, il y a ce vieux passé communiste, en fait, qu'on partage souvent. Le maréchal Tito.
Les pays frères.
Les pays frères et tout ça. Je crois que ça les a patinés. dans le sens de nous voir différemment. Et puis, ils ne nous voyaient pas à travers un prisme colonial. Ils n'ont aucun sentiment de quoi que ce soit.
Alors, puisque vous êtes un homme de parole, Gauze, on va se rapprocher d'un de vos choix de musique pour En Sol Majeur, avec ce groupe de rap ivoirien qui attend là. Le groupe Garba 50. Je ne sais pas si notre auditeur, Siaka Diallo, qui est installé avec nous sur le petit canapé là, connaît ce groupe.
Oui, il connaît forcément Garba 50.
Il dit oui de la tête.
Ouais. C'est la révolution dans le rap en Côte d'Ivoire, parce que ce sont les premiers à avoir accepté de mettre le langage de la rue justement à ces niveaux de culture rapistique mondiale en fait. On connaît la vraie vie, c'est paillé, on n'a rien. Si on vit qu'on, c'est pas paillé, c'est doux. On n'a qu'à avoir un peu, c'est là tu vas voir. C'est l'ayant qui fait tout. C'est l'ayant qui fait tout.
On connaît la belle vie, c'est paillé, on n'a rien. Si on vit qu'on, c'est pas paillé, c'est doux. On n'a qu'à avoir un peu, c'est là tu vas voir. C'est l'ayant qui fait tout. C'est l'ayant qui fait tout. On connaît la belle vie, c'est paillé, on n'a rien. Si on vit qu'on sait, papa et c'est tout. On a qu'à avoir un peu, c'est là tu vas voir. C'est là qui fait tout, c'est là qui fait tout.
On voit les dangereuses go, mais on parle pas. Aïe le Pierre, tu peux découvrir ta Isabelle Anno, ta Savannah là. Paradis est sur terre, c'est nous, on n'a rien. Donne-moi le salaire de Drogba, je vais te montrer les jardins d'Éden. Tu dors dans climatiseur, le poilu. Sors de ta vie tous les jours, graille du poulet. Prends l'avion pour aller chier à Paris. Maintenant, tu traînes dans les bons coins. Les défilés de mode et le puits des mannequins. Ah, la belle vie sans coconi, berry berry. Remplacer mon Alcatel au thé noir par un Blackberry. J'ai les autos, pourquoi mes endos à coûter. Je ne crois encore plus, je peux tout m'acheter. Nous aussi, on est mignons. Tu vois pas ça, ouais, y'a pas les millions.
On connaît la belle vie, c'est paillé, on n'a rien. Si on vit qu'on sait, pas paillé, c'est tout. On n'a qu'à avoir un peu, c'est là, tu vas voir. C'est là qui fait tout, c'est là qui fait tout. On connaît la belle vie, c'est paillé, on n'a rien. Si on vit qu'on sait, pas paillé, c'est tout. On n'a qu'à avoir un peu, c'est là, tu vas voir. C'est là qui fait tout, c'est là qui fait tout.
Je connais chez Hassan Main, je suis meilleur client de Ousmane. L'homme n'est pas allergique à moi, vitaminé, c'est pauvreté des parents qui l'a contaminé. Sinon là, personne n'aurait de vieilli dans barat. Good music, good weed, good graya, good life, mais pas moro pour ça. Tu veux Joe Alena, rentre d'abord en brou, s'il te faut les bâtons. C'est pas un son, non là est bon, moi ça, c'est même pas bon. Plus besoin de Tolo, télé là. Je prends un visa pour aller regarder finale de NBA vis-à-vis. Fini les égales crap. Voyage dans ma gueule, d'agnoté, everyday, tranquille. Je break une go, MLS numéro, trace de gloss sur ma tôle. Que c'est beau tout ça, mais sans l'an, faut pas trop penser à ça.
On connaît la belle vie, c'est pareil, on a rien.
Alors il y a intérêt à être contaminé par Garba 50 pour En Sol Majeur, ici à Abidjan, au Palais de la Culture, dans le cadre du SILA, toujours en Côte d'Ivoire, avec un MC d'honneur aujourd'hui nommé Gauze. Il a une plume à la main. Et là où je pense, car il n'est jamais là où on l'attend, entre Paris et Abidjan, entre Français standard et Français ivoirien, bref, entre victuailles et mangement.
Hey, Neko, trois ou kakan, au kamojma le kadie kata ou bekan.
Quel est le mot de la langue française que vous préférez?
Très pensif, hein, Gauze, sur cette question.
Non, mais en fait, mes mots français préférés dépendent des moments et des jours. Là, en ce moment, j'aurais dû penser, je pense à prosopopée.
Ouais.
Je sais pas pourquoi je pense à ça, j'adore, ça sonne bien.
Ça plope bien aussi dans le micro.
Prosopopée. Ça va pousser des gens à ouvrir le dictionnaire.
Absolument, un bon geste. Alors justement, pour bien ressentir cette pensée qui est la vôtre dans le langage, cette pensée, ce pansement, comme on dit en français ivoirien, j'aimerais qu'on écoute comme ça, en impro, un petit florilège des langues qui fleurissent votre palais. C'est parti pour 30 secondes d'improvisation.
Bon, comment on fait là? Donc, moi je suis censé parler comme en Nujiwa ou bien en vrai francoya. Bon, comme dit les Igaïla, en Djabara Pampanli de Molière. Tu vois, le langage, ça dépend du jour. Là, on va dire que je suis en entretien. Jamais je vais parler de Djabara Pampanli. On est en permanence, en réinvention totale et totalitaire de la langue. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le reste, c'est bruit et brouhaha. Fraissant, matin là, tu te lèves. Ton cherchement, c'est quoi? Le blé, le dabali ou bien les sciences? Moi, je suis dans les sciences. Je science tout le temps. Je ne me repose jamais. Il n'y a pas vacances de ça. Je science tout le temps. Et c'est pour ça que je peux te dire que la langue, là, on l'invente, on la réinvente tous les jours dans notre couloir ici. Mais par contre, le soir, si je, quand je vais voir le tonton, là, parce que je dois lui demander un peu de blé, là. Bonjour, tonton. Tonton, bon, voilà, c'est un peu dur aujourd'hui. Bon, à l'école, on voudrait faire la gym. J'ai besoin d'une Air Jordan. Tu vas jamais demander l'argent pour une Air Jordan en disant, oh, vieux père, c'est comment? Je demande un peu de blé. Tu vas blaguer le tonton. Tu choques bien, tonton, voilà. Oui, comment ça se passe à l'école, mon fils? C'est ça, la langue. La réinvention permanente en fonction des situations. Et on fait ça tous les jours.
Et votre langue littéraire, alors, est-ce qu'elle est faisandée de toutes ces langues?
Elle est forcément habitée de toutes ces langues. Et c'est le véhicule. Elle sert ma pensée à moi, ma pensée personnelle. Et comme elle est multiple et multiface, donc je peux vraiment, vraiment me promener, jouer du lecteur. Je peux vraiment... En fait, le plus dur pour moi, c'est de retenir les chevaux. Et c'est là que ça se passe, en fait, en réalité. C'est là qu'on devient, on commence à devenir écrivain. Quand on sait retenir les chevaux et rester sur la ligne de crête. Parce qu'après la crête, c'est l'autre versant, c'est la chute.
Alors, je sais que Romain Gary a été important dans votre construction d'auteur.
C'est Pelé, Romain Gary.
C'est le Pelé de la langue.
Il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, il est comme moi. Il est d'une francité un peu houspillée, multiple.
Il vient d'ailleurs, comme vous.
Voilà, il est matiné de toutes les langues, de la langue de sa maman, de son grand-père, de sa grand-mère, etc. Donc voilà.
Et c'est vrai qu'on pense un peu à la vie devant soi quand on lit Camarade Papa.
C'est un hommage clair que je fais.
Alors il y a Gary, mais il y a aussi une voix que vous souhaitiez entendre. Et ça va nous permettre de lui rendre hommage ici au Palais de la Culture, où il y a un stand hommage à Bernard Dadier. C'est sa voix, c'est l'un des esprits les plus brillants, les plus militants du continent, écrivain, poète, homme politique. Voilà ce qu'il disait de son roman Patron de New York.
Pour Patron de New York, je suis arrivé. Bon, moi j'ai vu la loi américaine. J'étais à Harlem, tu vois comment ça se comporte. Le rapport entre blanc et noir, j'ai vu. Et ensuite, j'ai vu à Nouvelle-Orléans, je demande où sont les toilettes. On me dit qu'il n'y en a plus. Donc les temps ont changé. Quand on a au restaurant, j'ai vu des blancs, plus blancs que les papiers, une femme, des femmes, plus blancs que c'est les papiers qu'il tient. Mais si on traque les noirs, je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Il a eu, ses parents ont eu une goutte de sang noir dans la. Donc, ça. Donc, ils n'ont pas ça en France. Tandis que là-bas aussi, c'est sûr qu'il existe encore. Il ne peut pas se défaire de certaines antériorités qu'ils ont dans le sang. Et même nous qui nous sommes colonisés ici, il y a des blancs qui ne changent jamais. Ni des noirs aussi, avec les rapports. Donc c'est un effort commun que nous devons faire les uns les autres pour que le monde soit vivable. Alors, il appartient aux écrivains de dénoncer les choses comme ça et en même temps d'appeler l'attention des gens sur de tels cas.
Abidjan qui rend hommage à Bernard Dadier ici au Palais de la Culture dans le cadre du SILA. Vous êtes bien sur RFI avec en sol majeur. Alors Dadier, ça, cette voix, c'est un document de Canal Méroé que je recommande en sol majeur. Qu'est-ce qu'il vous inspire, Gauze, ce grand penseur, ce grand libre penseur du XXe siècle?
C'est un géant, quoi. C'est un géant qui a pondu le premier roman de la littérature ivoirienne. Ce roman-là commence par une course-poursuite. L'instituteur, donc l'institution, le blanc, demande à deux gaillardois de poursuivre le petit Climbier parce qu'il a tagué un mur. Il a sorti les lettres de la classe de l'école et les a mis sur les murs de la ville. Et ces deux noirs, sous l'injonction du blanc qui le poursuivent, et quand il s'enfuit, où il s'en va vers la Komoé, le grand fleuve par lequel les Akans ont traversé pour venir ici. Les Akans qui sont plus de 50% de la population de Côte d'Ivoire. Donc ils retournent aux sources, ils courent vers la Komoé. Donc voilà, ça c'est Climbier, ça, qui est l'acte de naissance de la littérature ivoirienne. C'est génial.
Immense penseur anticolonialiste qui s'est opposé également à tous les régimes de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il l'a payé de sa chair, il a fait de la prison sous quasiment tous les régimes. Est-ce que vous auriez vous-même cette même posture pour défendre votre perception idéaliste, marxiste-léniniste, révolutionnaire, gilet jaune
je fais ça.
La littérature, Gauze, vous seriez capable d'aller jusqu'en prison pour,
idée bien sûr, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ça fabrique de grands hommes, regardez.
Non, c'est une question sérieuse. Hein.
Ah bah oui, mais je réponds sérieusement. Je suis prêt à aller... De façon... En fait, moi, ce que je défends le plus quand même, c'est quand même la beauté. C'est quand même le ravissement. Et ça, c'est difficile d'emprisonner quelqu'un pour ça.
Comment est-ce qu'il est là, ici ?
C'est comme cosmogonie.
Est-ce que vous aimez ce mot, Gauze ?
Cosmogonie Dogon. Je pense tout de suite à ça, à tout le travail qu'il y a eu à Théodore Monod et compagnie là autour de la cosmogonie Dogon. Moi j'aime l'idée que les gens se projettent dans l'espace, les étoiles, les déités, comme ça un peu surréalistes, comme ça.
Alors dans votre univers à vous, il y a 1000 choses sans doute insoupçonnables, mais 2 ou 3 que vous m'avez suggérées. Et donc il va se passer une chose un peu folle sur RFI, c'est la rencontre, écoutez bien Gauze, d'un pétomane français avec un vendeur d'hémorroïdes ivoirien. C'est parti. Une leçon de choses avec vous, Gauze, ici à Abidjan et sur RFI. Si c'est pas de la double culture, ça ?
Ah ouais, Yevgeny Sokolov.
C'est le vendeur d'hémorroïdes qui dit ça ?
Non, c'est Gainsbourg.
Ah bah voyez, et je les confonds déjà.
Et le vendeur de médicaments contre les hémorroïdes, il passait devant chez moi tous les matins en fait. J'habite au village artisanal à Grand Bassam, donc un matin je lui ai dit non, écoute, on va aller vendre ton médicament là ensemble. On a fait la tournée ensemble.
Pourquoi ce vendeur d'hémorroïdes, cela dit ? Est-ce que là il y a une langue, il y a quelque chose ?
Il vend des racines, regarde comment sa langue est portée. Il peut juste dire... Écoutez, je vends des racines contre les hémorroïdes et voilà, ça va vous soigner, point. Mais non, il emballe ça, parce que la forme est aussi importante que le fond. Voilà, il emballe ça dans ce discours râpé, scandé, comme ça, à longueur de rue, sous le soleil, dans ce haut-parleur, déformé, sa voix est déformée. Tu l'entends comme dans un rêve, et je trouve ça génial. Et puis, bon, évidemment, Gainsbourg, moi j'aime la manière, sa dérision de la société, quoi. Bon, voilà, tout finit en vent et en paix.
À propos de double culture, il faut qu'on en parle un peu, ça peut être vécu à la fois comme un handicap, le fait d'être à cheval comme ça, ou bien évidemment comme une force, parce que finalement, si on vous prend vous comme cobaye, comme exemple, vous avez un logiciel de plus que le français, le chinois, l'ivoirien lambda.
Ouais, ma fameuse théorie du Superman, qui veut que, en fait, nous ici, nous avons... La culture de nos parents, justement, la culture BT, la cosmogonie de Dogon, le poids apaisé, l'or à Caen, on a ça, moi j'ai ça en moi. Et mais j'ai aussi Émile Zola, Guy de Maupassant et tout ça, moi j'ai les deux. Seulement le français de base là-bas, à cause de la prétention coloniale, lui est resté enfermé dans son petit monde. Il fait pipi et caca dans sa couche là, il marine dedans.
Merci pour l'image.
Il marine dedans, il voit pas la culture que lui a ouvert justement sa propre civilisation. Donc il est un peu bancal.
Vous avez un peu d'altruisme pour eux en fait.
Voilà, c'est ça.
D'empathie.
D'empathie. Je leur amène la culture qu'ils ont perdue sur le chemin. Parce que la culture africaine.
Vous êtes un peu paternaliste là.
Exactement, exactement. Comme ils le furent il y a longtemps. Mais l'histoire est en train de changer de camp. Mais ils ne savent pas ça encore. Mais c'est en train de changer de camp et c'est nous qui prenons le pas. On va leur inculquer, leur infuser, leur diffuser, leur double culture qu'ils refusent.
Ah, vous avez des projets ?
Absolument, qu'ils disent camarade papa déjà, ça va bien se passer.
En tout cas, on sent un décalage permanent vis-à-vis de la norme chez vous, Gauze. Et ce décalage produit souvent une dimension qui s'appelle le rire. Et le rire sur le drame. Ça, c'était la marque de fabrique de l'auteur dramaturge Aziz Chouaki. C'est ma manière à moi de lui rendre une minute un hommage en sol majeur. Est-ce que c'est votre posture à vous aussi de rire sur le drame ?
Absolument, mais c'est la posture qu'il faut tenir, parce que le rire, c'est la chose la mieux partagée dans le monde.
Vous savez qu'il y a des esprits réticents par rapport à cette posture. Hein.
C'est possible.
D'ailleurs, ce sont souvent, des intellectuels ou des décideurs français, je ne les nommerai pas, qui n'ont jamais bougé, qui sont toujours sur le même petit rocher et qui ne comprennent pas qu'on peut effectivement poser le rire sur la problématique des migrants, la problématique de la guerre.
Absolument tout. Mais qu'ils viennent faire une réunion au village, chez les Bété là-bas, ou bien chez les Bambara, ou bien chez les Baoulé, ils vont comprendre ce que ça veut dire. L'homme qui rit, c'est un homme qui a compris. L'homme qui rit, c'est un homme qui a du recul. C'est l'expression suprême de l'intelligence partagée, le rire. Et c'est ça, c'est le premier, la première expression de la rébellion partout. Toi qui parlais de la faillite des régimes communistes, pour moi, l'une des raisons pour laquelle ces régimes-là ont chuté, c'est qu'ils ont arrêté de rigoler. La révolution, c'est drôle. Il faut voir la commune de Paris, c'est l'une des choses les plus drôles qui soit arrivée en France. Il faut voir aujourd'hui les gilets jaunes. Il y a un abécédaire du rire aujourd'hui dans toutes les manifestations. Il faut voir en Algérie. Ils ont fait tomber Bouteflika en rigolant. C'est quelque chose de sérieux. Et Abidjan rit tout le temps, même sous la guerre, même sous les tirs, les rafales de Kalachnikov. Et on rit tout le temps. D'ailleurs, ici, on dit, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'Ivoirien. L'Ivoirien a créé l'attachement. L'attachement, c'est justement la capacité de se moquer les uns des autres en s'attachant avec les mots et les concepts.
Camarade Gauss, qu'est-ce que vous pensez de ces slogans? Je pense qu'ils sont issus de la rue, des gilets jaunes, de vos fameux gilets jaunes. Avec cette question, est-ce que descendre dans la rue et manifester, ça vous intéresse ou ça vous fait rire?
Ah mais les deux marchent en fait. Déjà c'est drôle de descendre dans la rue, cette façon de marcher pour que les choses bougent. On marche vraiment physiquement dans la rue, c'est ça qu'on dit. Et on dit aussi que la démocratie n'est pas juste une question mathématique quand on va dans la rue. Les gens croient que quand tu élis un président à 50,8%, quel sens ça de dire que c'est de la démocratie? La démocratie, c'est pas le nombre. La démocratie, c'est aussi l'expression des idées. Et manifester fait partie de cette expression-là. Et c'est toujours drôle, c'est vraiment drôle. On est drôle quand on est ensemble. Hein. Oui. En réalité, c'est quand chacun...
On est dangereux aussi. Hein.
Oh, ben oui. On est dangereux, fort et drôle quand on est ensemble. Mmh. C'est quand chacun se disperse dans son coin, dans sa maison, dans son petit confort bourgeois, et les gens deviennent tout de suite très sérieux dans leur Mercedes, dans leur salon climatisé, ils arrêtent de rigoler.
Et vous descendez-vous autant dans la rue parisienne que dans la rue abidjanaise?
Tout le temps, mais ça c'est le principe. Avec mes enfants, ils ont appris à manifester très tôt. Je me souviens de ma fille sur mes épaules au moment du ministère de l'Identité nationale. Ma fille, elle, qui criait « Sarkozy, petit zizi, Sarkozy !» Elle avait 2 ans et demi, c'était la...
Et le slogan était signé de qui, Gauz?
Ah, c'était pas de moi, hein. c'est elle qui l'a inventé.
Alors justement, puisqu'on est dans la rue 2 minutes avec votre bébé sur les épaules, parlons vrai. Alors une petite question à 5 milliards pour terminer. 5 milliards, c'est l'une des enveloppes qui a été donnée par le régime ivoirien pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame. Je referme la parenthèse immédiatement. La réconciliation, est-ce que c'est un mot que vous aimez pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous y croyez aussi?
Réconcilier des gens, c'est dire qu'il y a eu la bagarre, en fait. Les gens sont en palabre. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Ceux qui ont besoin de se réconcilier en Côte d'Ivoire ici, ce ne sont pas les Ivoiriens, hein. Ce sont les hommes politiques. Et ils ne sont pas avec nous, qui se mettent dans un salon là-bas. De toute façon, ils mangent ensemble, ils se baladent dans les mêmes avions, dans les mêmes classes, business class et tout ça. Qu'ils se réconcilient entre eux là-bas, qu'ils lâchent le micro. Nous, on va se gérer dans la rue, là. Mm-hmm. On va se gérer, on n'est pas en palabre dans la rue.
Vous seriez ministre de quoi, vous
Ministre du ravissement.
En sol majeur, @rfi.fr.
À lire aux éditions Le Nouvel Attila, camarade papa de l'Amigose. Et pour refermer cet en sol majeur un peu bruyant pour cause de lecture à voix haute, hein, on est toujours au Palais de la Culture,
ouais,
d'Abidjan.
Partout où il y a gauze, il y a bruit.
Il y a Ecchymose, j'ai dit. Vous aimez pas cette rime-là?
Ah, c'est bien, c'est pas mal, ça.
J'aimerais bien qu'on puisse écouter un Nina Simone de Derrière les fagots. Vous avez choisi Thinkest Than a Mosquito Twitter. J'avais jamais entendu ce morceau, il est...
Funkier. Like a mosquito twitter.
Ouais.
Je l'ai choisi particulièrement à cause du solo de batterie dantesque de cette chanson-là, qui rappelle toujours que le rythme est au centre de tous ces gens-là. Que finalement, la musique, c'est pas l'écriture, c'est la vibration.
Story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. Something to tell you, baby, that you ain't hip to, baby. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why you never last. You wanna be a graduated mother, but in reality you're just another brother. You slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't never really pleasing. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around to see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing.
Majeur, tout un week-end à Abidjan grâce à l'Institut français, on va plier bagages. Juliette Brault, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère la semaine prochaine à Paris pour de nouvelles aventures en sol majeur. À la semaine prochaine.